Bonjour, aujourd'hui c'est le mercredi 8 décembre 2004. Nous sommes à Lyon, 7 place des Tarots, dans la Société d'études psychiques et parapsychologiques. Moi, le conférencier, je suis Ole Terkelsen. Et je veux faire une conférence sur le thème Le pouvoir de la pensée, selon le philosophe danois Martinus.
Oui, le thème pour aujourd'hui, c'est le pouvoir de la pensée, selon Martinus. Martinus est un écrivain danois. Il est décédé il y a 23 ans, à l'âge de 90 ans. Quand il avait 30 ans, il a vécu une révélation, il était initié, il a eu une conscience cosmique. Et après ça, il a eu une intuition totalement développée. Et quand il a eu une question, quand il voulait analyser un problème spirituel, il a reçu la réponse par l'intermédiaire de l'intuition. Il dit qu'il a eu accès à l'océan de connaissances. Ça veut dire qu'il n'est pas un philosophe qui a pensé, il n'a pas eu des théories. Il a simplement pu vivre la vérité. Il dit qu'il a vécu les lois de la vie, les principes éternels de la vie. Et ainsi, il a créé une cosmologie et il a expliqué le sens de la vie et le but de la vie. Et aujourd'hui, il y a deux parts dans la conférence. Il s'agit du pouvoir de la pensée. Et premièrement, c'est les pensées de l'homme. Et deuxièmement, c'est les pensées de l'univers. À quoi pense l'univers? On peut se demander. Martinus pense que tous les êtres vivants dans l'univers ensemble, c'est un être vivant. Ça veut dire que l'univers est un être vivant. Tous les cellules, les organes, les hommes, les plantes, les animaux, les planètes, les astres, les galaxies sont des êtres vivants. Et il y a une totalité et c'est l'univers vivant. Mais tous les êtres vivants ont des pensées. Ça veut dire que l'univers aussi a des pensées. Et à quoi pense l'univers? C'est ça. C'est très important avec les pensées. Martinus dit que la cause de toutes les maladies sont des pensées fausses, des pensées erronées. Si on pense, si on a des pensées positives, on a une bonne santé, mais s'il y a des pensées négatives, c'est la cause de toutes les maladies. Il l'a exprimé dans une autre façon. Il a dit que la cause de toutes les maladies sont manque d'amour à la prochaine. Et on peut se demander qui est notre prochain. On veut dire l'homme, mais c'est pas suffisamment parce que les animaux aussi, ce sont des êtres vivants. Ça veut dire les animaux aussi sont notre prochain. Et Martinus a élargi cette analyse et il pense que notre organe aussi sont des êtres vivants. Les cellules sont des êtres vivants. Et les molécules, les atomes sont des êtres vivants. Ça veut dire que nous sommes des dieux. Nous avons un univers des êtres vivants dans notre intérieur. Et si on veut avoir un destin heureux, il faut savoir qu'on crée un destin ou un karma dans trois champs très importants. Dans notre relation avec les autres hommes, nous créons une karma, n'est-ce pas? Si, le comportement envers les autres hommes, c'est la cause de notre destin à venir. Mais deuxièmement, c'est aussi très important comment nous traitons les animaux. Martinus a écrit un petit livre, l'alimentation idéale, où il recommande une alimentation en régime végétal. Il y a deux deux choses qui sont très importantes. Premièrement, c'est très bon pour la santé d'être végétarien. Deuxième, il y a aussi un aspect de karma. Ça veut dire, si on mange de la viande, on est la cause que les animaux sont tués. Et ça veut dire, les animaux, ils peuvent le vivre comme un accident. Soudainement, ils sont tués. Mais les conséquences pour les hommes peuvent être qu'ils sont aussi tués dans un accident. C'est ce que Martinus a vécu, qu'il y a une cause. Si on est tué dans un accident, dans la circulation, ou l'avion, ou dans la guerre, et ça peut être parce qu'on a mangé de la viande. Mais troisièmement, c'est très important comment nous traite notre microcosme. Dans le microcosmos, il y a des êtres vivants. Et nous pouvons maltraiter les êtres dans le microcosme dans une manière physique et dans une manière psychique. Martinus explique que c'est pas bien de fumer parce qu'on pollue les poumons, mais aussi les cellules. On peut dire c'est mon corps, c'est seulement en matière à moi, mais c'est pas seulement ça. Tous les organes sont des êtres vivants. Il y a des gens qui veulent cesser de fumer. Il y était un psychologue qui a eu une thérapie. Il a invité le client de s'asseoir dans une chaise et il a dit, imaginons que dans l'autre chaise est assis votre poumon. Et maintenant, je veux que vous ayez un dialogue avec votre poumon. Vous pouvez parler avec vos poumons comment ça se sent quand on fume une cigarette, par exemple. Et c'était très effectueux parce que comme ça, on peut penser qu'est-ce que je cause, qu'est-ce que je fais à mes poumons quand je fume. Et ce n'est pas seulement les poumons, ce sont des milliers, des millions de cellules qui vont souffrir sous cette pollution. Ici, maintenant, il y a un mouvement de l'écologie, il ne faut pas polluer l'environnement. Et peut-être il y a quelques-uns d'eux qui fument et disent ne pas polluer la nature. Mais il faut comprendre que, par exemple, les poumons, c'est aussi un grand univers qu'on peut polluer avec la fumée. Mais il dit aussi que c'est pas bien de boire de l'alcool parce que c'est aussi une substance toxique. Et si on s'accoutume à boire chaque jour, à la fin, on ne peut pas cesser. Ça devient une coutume toujours de boire, mais l'alcool c'est une substance toxique et c'est pas bien. Et comme ça, on maltraite le microcosme. Et c'est avec les drogues ou trop de médecine et des choses comme ça, on peut aussi polluer notre univers et c'est une chose très grave. On peut se demander, est-ce qu'un grand être est plus important qu'un petit être? Mais ce que Martinus a expliqué, c'est ce qu'il y a un principe d'unité de vie. Et cet symbole ici peut être un homme. Ici, le centre, c'est un symbole du moi. Nous avons tout un sentiment, j'existe, j'ai un moi. Et cet moi a un pouvoir créatrice, c'est le surconscience, il y a un résultat créé, c'est le corps physique. Si c'est un homme, ce sont des organes qui sont des êtres vivants individuels. Mais les organes sont constitués des cellules, et on peut faire une cellule de molécules, et ça continue infiniment. Il n'y a pas assez, c'est presque comme avec... Est-ce que vous savez les films ou les programmes avec les fractales? Ce sont des figures mathématiques et on peut agrandir un détail et quand on a agrandi ce détail, c'est le même comme le grand image avant et on peut faire un voyage dans un fractal éternellement. On peut continuer. Il n'y a pas un fractal qui est le plus petit. Et on peut l'envers, il n'y a pas un... C'est presque comme avec les chiffres. Il n'y a pas un chiffre le plus grand, il n'y a pas un chiffre le plus petit. On peut continuer infiniment dans le microcosme et dans le macrocosme. Et ça veut dire qui est grand et qui est petit. Ça veut dire qu'il y a une infinité des êtres qui est plus grand que moi, il y a une infinité qui est plus petit que moi. On peut prendre en galaxie, ah, c'est très grand, mais quand même, la galaxie soi-même est milieu. Il y a une infinité qui est plus grande que la galaxie et une infinité qui est plus petit que la galaxie. Ça veut dire, si on prend un poids vert, est-ce que c'est grand ou petit? Si on est sur un électron d'un atome, on veut dire qu'un poids vert, c'est un grand univers. Mais pour le système solaire, le poids vert est très petit. Mais quelle est la vérité? Est-ce que le poids vert est grand ou petit? Ça dépend des yeux. On ne peut pas dire absolument si une chose est grand ou petit. Et je le dis seulement pour montrer que tous les êtres vivants ont la même importance. Ça veut dire, c'est aussi important comment on nous traite notre organe et notre cellule. Et en parenthèse, je voudrais dire, Martinus pense que l'évolution est basée sur l'expérience et l'entraînement. Chaque fois qu'on a fait une expérience, on s'est développé. Chaque fois qu'on s'est entraîné, on a développé un talent. Mais ces talents sont comme des noyaux qui se situent dans la surconscience. Ça veut dire ça survit la mort. Après la mort, le corps ne reste plus. Mais toutes nos expériences, tous les talents vont survivre. Et nous avons nous-mêmes créé tous nos talents. Si quand un enfant est né, l'enfant est né avec les talents comme cet enfant a créé dans les vies antérieures. Mais nous-mêmes avons aussi créé les talents pour créer un corps tout à fait normal. Mais si, par exemple, on a beaucoup fumé, on a partiellement détruit les poumons, peut-être est-ce qu'on veut avoir une maladie dans les poumons, peut-être un cancer, et on meurt par ça. Mais le problème n'est pas solué. On a aussi détruit les talents pour créer des poumons à bonne santé. Ça veut dire dans la vie à venir, on peut être né avec l'asthme. Il y a des scientifiques au Danemark, ils ont eu une grande surprise. Ils ont constaté que les enfants avec l'asthme commencent à fumer avant l'autre enfant. Et ils fument plus que les autres enfants. Mais c'est très agréable, mais désagréable, de fumer si on a l'asthme, n'est-ce pas? On ne peut pas le comprendre. Mais selon Martinus, la cause est qu'ils ont fumé dans les vies antérieures, c'est déjà devenu un coutume. Il s'est accoutumé à fumer. Et ça veut dire la cause de leur asthme. Est-ce qu'ils ont fumé dans les vies antérieures? Ils commencent avant et ils ne fument plus parce que c'est déjà il s'est accoutumé à cette chose-là. Et le plus sérieux, c'est si on est un alcoolique et on but pas seulement chaque jour, chaque mois, chaque année, mais toute la vie, et la vie après, et peut-être dans le troisième vie aussi. À la fin, on a totalement détruit le système nerveux, on a détruit le cerveau, et après, on est né comme un enfant mongoloïde, parce qu'on a détruit le cerveau. Ça veut dire, c'est très important comment nous vivons. Si on a des coutumes qui n'est pas bon, ça peut être la cause des maladies dans les vies à venir. Si un enfant est né avec une maladie, c'est à cause d'une fausse manière à vivre dans les vies antérieures. Il y a aussi des gens qui sont nés avec de la migraine, c'est une douleur à la tête très forte. C'est presque comme enfant, on a des tendances à la migraine. Et la cause, c'est ça, qu'on a maltraité le système nerveux dans les vies antérieures. Si on est très nerveux, si on dort trop peu, je sais pour moi-même, si j'ai beaucoup de travail et si je dors trop peu, J'ai mal à la tête, il y a une douleur à la tête. Il faut se reposer et pas trop travailler. Mais il y a des gens qui se mettent dans le lit trop tard, ils se lèvent trop tôt et le système nerveux n'est pas réparé parce qu'ils n'ont pas suffisamment dormi. Et si on a un coutume comme ça, on peut aussi avoir une tendance pour les douleurs à la tête. Mais c'est pas seulement ça qu'on peut traiter sa microcosmos dans une manière fausse avec les substances physiques. Presque le plus important, ce sont nos pensées. Parce que c'est la plus grande force de la nature dans tout cet univers. Nous sommes comme des dieux. Et nous avons une grande responsabilité pour ces millions et milliards de micro-individus qui vivent dans notre organisme. On peut diviser les pensées. Nous avons les pensées positives et les pensées négatives. Et si on a des pensées positives, on a de force à vivre. On a une bonne santé. Et comment est-ce qu'on peut avoir force à vivre? Si on pense que c'est une joie de vivre, on a automatiquement force à vivre. Si on se sent heureux, si on sent le bonheur, automatiquement on a force à vivre. Ça donne de l'énergie à tous les micro-individus. C'est comme le soleil du beau temps. Mais il y a aussi des pensées négatives. Si on est furieux, si on ne peut pas pardonner, si on est irrité, ce sont des pensées négatives. Et le fausse le plus commun, c'est d'être un martyr. On se sent comme une victime. Ça veut dire qu'on pense qu'on a subi une injustice. Si c'est dans le mariage, c'est le mari qui est la cause des problèmes, c'est les enfants, ce sont les collègues, c'est le chef. On a une tendance toujours de trouver des fautes chez les autres. Mais moi, je ne fais pas des fautes. Moi, je suis comme un ange. Et pourquoi me changer? Parce que je ne fais pas des fautes. On ne fait pas son travail sur soi-même. Mais on dit à l'autre, cessez de faire ça et cessez de faire ça et faire comme ça. On veut essayer de changer les autres. Mais comme vous savez, c'est pas possible de changer les autres. Mais on a une chance de changer soi-même. Mais on ne voit pas les fautes c'est soi-même. On voit les fautes c'est chez les autres. Et c'est tout à fait logique ou naturel de penser dans cette manière. Si on peut seulement voir la vie avec les yeux physiques. Parce que si j'ai un accident, dans la circulation, il y a quelqu'un qui a trop bu, il a conduit la voiture, il m'a heurté. Je dis, il est la cause de ma maladie. Si on a eu une opération et le chirurgien a fait une faute, il a détruit ma vie. Il y a beaucoup qui a dit, mes parents ne m'ont jamais donné la chance, ils ont détruit ma vie. Je connais une femme, elle a eu une opération quand elle avait 20 ans. Et c'est pas un grand succès. Et après ça, elle a toujours dit, ce sont les docteurs qui ont détruit ma vie. Et elle l'a répété. 60 ans, ou presque 70 ans, parce qu'elle était très vieux. Mais elle a répété et répété, et elle se sentait toute la vie très, très fatiguée. Et ce sont les premiers symptômes de cette fausse pensée. Si on se sent comme une victime, il y a des injustices. Je suis un martyr, je suis une victime. C'est des pensées négatives. C'est pas le même que sentir la bonheur. On n'est pas heureux. Ce sont des énergies et nous avons des batteries de force de vivre. Et si on a des pensées positives, on charge les batteries pour la force de vivre. S'il y a des bactéries ou des virus dans l'air, il y a quelques-uns qui ont une infection et d'autres pas. Quelle est la différence? Pourquoi est-ce qu'il y a quelques-uns qui deviennent malades et pas les autres. Ça dépend de la force de vivre. Et la force de vivre dépend de la qualité des pensées. Et il y a une fatigue naturelle. Si on a beaucoup travaillé, on est très fatigué. Mais on peut se reposer et on peut dormir. Et on peut réparer cette fatigue en se reposant et en dormant. Mais il y a cette autre fatigue, une fatigue pas naturelle. Et on ne peut pas le réparer quand on se repose. Il y a des gens, il y a beaucoup aujourd'hui, au Danemark, il y a beaucoup qui se sont déprimés et très fatigués. Et il ne peut pas plus travailler, il est surchargé. Et il peut rester au lit 10 heures, 12 heures, 14 heures, mais il est toujours très fatigué. Parce que la cause n'est pas physique. On ne peut pas le réparer en se reposant physiquement. Il faut, c'est dans la conscience où on a des pensées erronées. Il faut travailler sur la conscience. Il faut travailler. Mais comme j'ai dit, c'est naturel de penser comme ça, que c'est les autres qui est la cause de mes problèmes. Parce qu'on ne peut pas voir la loi du karma. Il y a une loi du destin, mais on ne peut pas le voir avec les yeux physiquement. Mais quand même, dans les religions de l'Orient, on parle du loi de karma, et Jésus-Christ a aussi parlé. Il a dit, si on tuait avec l'épée, on est tué soi-même par l'épée, et fais pour les autres ce que tu veux qu'ils feront pour toi. Et ici, c'est aussi un être vivant, c'est la moi, c'est le symbole numéro 16. Le triangle, c'est le moi éternel et c'est le pouvoir créatrice que le moi peut utiliser les énergies. Ici, il y a des cercles, ce sont des courbes du destin. Quand on va envoyer en courbe du destin, ça va revenir. Et ça peut revenir très rapidement ou très lentement. Ici, nous avons fait une chose qui a une grande influence sur les autres. Ça va revenir avec une grande influence sur ma vie. Ici, on a fait quelque chose qui a une petite influence à la vie d'autres. Ça revient avec le même effet. Mais on ne peut pas voir la loi du karma. Mais c'est tellement important. Si on veut cesser avec les pensées négatives, c'est ça où il faut commencer. Il faut commencer de dire, moi, je suis la cause de mon propre destin. C'est très important. Et si on peut dire une chose comme ça, l'énergie va revenir. La force commence à revenir. Mais naturellement, c'est très difficile. Si par exemple, il y a un mariage et le mari, il a trop bu, il est alcoolique. Alcoolique. Et c'est le lâche muet en français.
C'est le haut quand
tu prie. Oui. Mais chez nous, il y a un H qu'on prononce.
Oui. C'est la facilité du français.
Oui, c'est le charme de la. Mais ça veut dire qu'il y a des grands problèmes dans la famille. Et naturellement, elle dit, mon mari, il est la cause de tous les problèmes dans la famille. C'est très difficile pour elle de dire, moi-même, je suis la cause de mes problèmes. Il y a des situations où si on est dans un chaise roulant, c'est difficile à comprendre comment est-ce que je suis la cause de mes problèmes moi-même. Mais si on comprend les grands principes de la vie, les lois de la vie, on peut comprendre qu'il y a une justice à 100% dans la vie. Nous avons nous-mêmes 100% créé notre propre destin. Il n'y a pas d'exception. Et ça donne de force, et ça donne d'envie à vivre. Martinus a aussi expliqué que, particulièrement, le sang est influé par les pensées. Si on a des pensées positives, on donne de la magnétisme à le sang. Et le sang circule dans tout le corps et va venir à toutes les cellules. Et comme ça, c'est très important de magnétiser le sang avec des pensées positives. La qualité de notre sang, c'est une question de la qualité de nos pensées. Il y a dans le sang, il y a des cellules, des corps blanches, je ne sais pas comment on dit en français. Globules blanches. Et si on a beaucoup de globules blanches, on peut résister à l'infection. C'est un signe de bonne santé. Mais il y a aussi des psychologues qui ont suivi un client ou un patient et on a montré qu'il y a beaucoup de globules blanches quand on est joyeux, quand on est heureux, quand on a des pensées positives. Comme ça, je pense qu'on a presque montré scientifiquement qu'il y a une relation entre la qualité des pensées et la qualité du sang. Mais Martinus parle beaucoup d'un magnétisme. Le monde spirituel, c'est un monde électromagnétique. Et il y a aussi, dans le monde des molécules et des atomes, il y a aussi un électromagnétisme. Et comme ça, il y a une correspondance entre les pensées et les molécules et les atomes. Martinus a pensé qu'il voudrait écrire un livre sur la cause cosmique de toutes les maladies. Mais il a compris que ça sera un très très grand travail et il a compris qu'il n'a pas eu le temps d'écrire un tel livre. Mais il dit, dans l'avenir, quand il y a des docteurs très évolués, peut-être après, je ne sais pas, 300 ans, 400 ans, il va être des docteurs qui ont des expériences cosmiques. Ils ont de l'intuition et peut-être ils peuvent intuitivement vivre la cause cosmique des maladies. Mais Martinus a dit en principe, chaque maladie spécifique, la cause est d'une fausse pensée spécifique. Mais je crois que vous avez entendu parler de Louise Hay, de les États-Unis, comment on peut soigner soi-même. Et elle a écrit un petit livre, et il y a trois colonnes dans ce livre. Dans la première colonne, il y a le nom de tous les divers maladies. Dans la deuxième colonne, c'est la pensée fausse, la pensée erronée. Et dans la troisième colonne, c'est la pensée qu'on doit faire pour se guérir. Et en principe, selon Martinus, c'est la vérité. C'est comme ça. Oui?
Il y a Lise
Bourbon
aussi.
Oui? Et c'est seulement un exemple. Elle a expliqué qu'on peut avoir une maladie sur le lentille dans l'œil. Ça veut dire que la vue est un peu grise. Je ne sais pas le nom en français. Mais elle dit que la cause de cette maladie, c'est qu'on n'a pas des joyeux pensées en relation avec l'avenir. On se fait des soucis. On n'a pas envie de l'avenir. On a peur de l'avenir. Et si on ne veut pas voir l'avenir, ça peut détruire un peu la vue. Et je crois que dans un sens, c'est un peu logique. Un autre exemple, c'est les os. On peut romper les os. Et s'il y a des personnes qui ont rompu les os, c'est parce qu'ils sont trop rigides. Il y a des plantes qui peuvent, il fait du vent et on est flexible, on peut se arranger avec les conditions. Mais il y a des gens qui ne veulent pas changer. Ils sont tellement solides, ils ne peuvent pas changer. Ils sont tellement pas flexibles. Et ce sont les gens comme ça qui ont des accidents avec les os. Et un autre exemple, c'est avec les constipations et les hémorroïdes. Elle dit, si on pense beaucoup à le passé, il y a quelque chose qui s'est passé et peut-être est-ce que ma mari a fait quelque chose que je ne peux pas pardonner. Et j'ai un ami qui a fait quelque chose contre moi et je ne peux pas oublier qu'il peut me traiter comme ça. Ça veut dire qu'on peut être traité dans une manière injuste et on pense toujours à ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas laisser passer l'avenir. Et dans le même sens, c'est avec quand on a mangé, Il faut laisser l'ordure, les choses. Il ne faut pas gâter les problèmes. Et si on gâte les problèmes pénibles, on gâte aussi ce qu'on a mangé. Il faut laisser toutes les choses et peut-être oublier ou pardonner, mais les soigner. Ça veut dire, si on veut avoir une santé parfaite, il faut pratiquer l'amour du prochain. Et il faut pratiquer l'amour du prochain envers tous les hommes, envers les animaux et aussi envers le microcosmos. Et si on a des pensées positives, on pense, c'est merveilleux de vivre, je suis heureux de vivre. Je suis reconnaissant que j'ai la chance de vivre la vie est bonne, pas tout le temps très agréable, mais quand même, je suis heureux que je vis comme ça. Si on a des pensées comme ça, on a une santé très bonne. Je voudrais aussi parler un peu sur les pensées de l'univers. Si on prend la somme de tous les être vivant. Pas seulement l'homme, mais aussi les organes, molécules, cellules, les planètes, les systèmes solaires, galaxies, tous les êtres vivants, la somme de tous les êtres vivants, c'est un être vivant, c'est une entité, une totalité, et c'est l'univers vivant. C'est un être qui est infini, éternel et infini. Il n'y a pas de cause de l'existence de l'univers. C'est la somme de tous les êtres vivants. Et tous les êtres vivants ont des pensées. Et Martinus a expliqué qu'il y a deux parties dans l'univers. Il y a le monde physique et il y a le monde spirituel. C'est un symbole numéro 22. Et je l'ai choisi parce que Martinus a indiqué que le monde physique consiste du règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne à l'homme véritable, à l'homme achevé. Et après, il y a ce règne de l'homme achevé, il y a des règnes spirituels, le règne de sagesse, le monde divin et le règne de béatitude. Il y a un but avec le monde physique. Et le but du monde physique, c'est évolution. Ça veut dire, les minéraux, ils n'ont pas de conscience dans le monde physique. Mais les plantes ont un peu de conscience. Ils peuvent vivre un peu dans le monde physique. Les animaux ont une conscience plus évoluée que les plantes et l'homme de terre a une conscience plus évoluée que les animaux et les êtres Christ, le Bouddha, Jésus-Christ, l'homme achevé a une conscience plus évoluée que nous. On peut dire que le but du monde physique, c'est de développer une conscience parfaite, une conscience achevée, une conscience cosmique. Et d'un point de vue, on peut dire qu'il y a seulement deux êtres vivants dans l'univers. C'est moi et mon environnement. C'est moi et mon entourage. Et si l'environnement est l'univers vivant, ça veut dire qu'il y a deux êtres vivants. C'est moi et l'univers vivant. Et chaque fois que je reçois une énergie de mon entourage, c'est l'univers qui parle à moi. C'est une chose très importante dans l'écriture de Martinus. Il dit que la vie parle à nous. Il faut comprendre la langue de la vie. Si on veut parler en France, il faut apprendre le français. Si on veut parler avec les Chinois, il faut apprendre la langue chinoise. Mais c'est très important d'apprendre la langue de la vie. Il y a beaucoup du monde aujourd'hui qui sont athées, matérialistes, et ils ne peuvent pas comprendre la langue de la vie. Ils pensent que la base du monde, ce sont l'azar. Quand l'univers est explosé, il y a eu des atomes de hydrogène et de hélium, et grâce à les mouvements tout à fait hasardement, nous sommes créés. La cause de l'existence de l'homme de terre, ce sont des choses qui s'est passées par hasard. On croit que la vie est un théâtre absurde. Quand j'ai étudié au lycée au Danemark, nous avons lu les livres de Sartre, Ionesco, il y a les existentialistes français. Et c'était des gens modernes, ils ont pensé très logique, et selon leur logique, la vie est un théâtre absurde. Et ils ont raison. Si nous avons seulement une vie, la vie est un théâtre absurde. Il n'y a pas de justice dans la vie si nous avons seulement une vie. Il y a des gens qui sont nés avec des maladies, il y a d'autres qui sont nés dans bonne santé, dans des pays riches, dans des pays pauvres, comme ça. Il n'y a pas de justice si nous avons seulement une vie. Comme ça, ils ont fait une conclusion correcte. La vie est un théâtre absurde si nous avons seulement une vie. Mais ce que Martinus a expliqué, c'est que tous les êtres vivants sont des êtres éternels. Nous avons un corps temporaire. Le corps, c'est un outil, un véhicule. Mais le moi et notre conscience est éternel. Et si on explique la vie sous un point de vue de l'éternité, il y a beaucoup de logique dans la vie. Une des plus grandes choses dans la cosmologie de Martinus, c'est qu'il a expliqué le rôle des ténèbres, de la souffrance. Il a justifié les ténèbres, il a justifié la souffrance et expliqué le rôle. Et il a expliqué que c'est nécessaire avec les contrastes. S'il n'y a pas de contrastes, ce n'était pas possible de vivre la vie. C'est impossible de se sentir heureux si on n'était jamais malheureux. Si on était très, très, très malheureux, c'est possible d'être très, très, très heureux. Si on a vécu une grande solitude, si on était seul dans plusieurs années, et après, on a eu de la compagnie et beaucoup des amis, on peut vraiment apprécier les amis et la compagnie quand on a vécu le contraste, n'est-ce pas? On ne sait pas qu'il fait chaud si on n'a pas vécu qu'il fait froid. Ça veut dire, c'est bien avec les contrastes. Sans contraste, c'est pas possible de vivre la vie. Mais dans un autre sens, quel est le but des souffrances? Chaque fois qu'on a eu une souffrance, on a appris quelque chose. Nous avons des sentiments. Est-ce qu'on peut développer les sentiments par les études? Non, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut développer les sentiments? Il faut sentir. Et chaque fois qu'on a senti quelque chose, ça croise le corps des sentiments. Ça veut dire, si on a eu beaucoup de souffrances, on a beaucoup de sentiments, beaucoup de compassion, on peut sentir avec les autres. Ça veut dire que les problèmes, les souffrances, nous donnent le plus bon talent, et c'est l'humanité ou l'amour du prochain. On ne peut pas étudier pour avoir l'amour du prochain. Il faut le développer, il faut faire les expériences soi-même. Et quand on a beaucoup souffri soi-même, on peut sentir avec les autres. S'il y a quelqu'un qui va rompre le gombe, il vous est à côté, c'est presque ça fait de souffrance dans vous-même. Ou s'il y a dans le télé, il y a quelqu'un qui va prendre un couteau, et vous pouvez voir un peu du sang sur l'écran. Et ça, vous avez un choc, n'est-ce pas? On est très choqué. On peut le presque sentir dans soi-même. Mais c'est seulement une image sur le télé. Mais nous avons une réaction très forte. Pourquoi? Parce que nous l'avons vécu nous-mêmes. C'est le secret. Et ça veut dire que les souffrances, ça nous donne le don le plus valable, et c'est le compassion, c'est le sentiment qu'on peut sentir, et c'est de l'humanité avec les autres. Et le but du monde physique, c'est une évolution, mais aussi c'est un enseignement. Ça veut dire, la vie n'est pas un théâtre absurde. La vie est une communication entre deux êtres vivants. C'est entre l'individu et la totalité. Et avec une expression un peu religieuse, la vie est une communication entre l'individu et Dieu. Et comme Saint Martinus, il a une définition très vaste de la prière. Il dit, prière, c'est communication avec Dieu. Mais toutes les expériences dans la vie, c'est une communication avec l'entourage, avec l'environnement. Comme ça, c'est une communication avec l'univers, c'est une communication avec le Dieu. C'est de bonjour, madame, et c'est aussi une communication avec Dieu, parce que tous les êtres vivants sont des cellules dans le corps de Dieu. Et c'est un point de vue qui est très important de commencer, de comprendre que la vie parle à nous. La vie enseigne nous. Et ça veut dire que l'univers ou Dieu a des pensées. Nous pouvons observer qu'il y a beaucoup de mouvements dans le microcosmos. Il y a beaucoup de mouvements ici, dans mes cosmos, les animaux, les champs se mouvent. Il y a beaucoup de mouvements dans l'univers, les planètes, les systèmes. Nous vivons dans un océan de mouvements. Pourquoi tous les mouvements? Qu'est-ce qu'on peut voir quand on voit tous les mouvements? Et Martinus, il a répondu avec trois mots. Si on demande... Qu'est-ce que c'est que ça que j'observe quand j'observe tous les mouvements? Qu'est-ce que c'est que ça? Et Martinus a répondu avec trois mots. Dieu crée conscience. Dieu crée conscience. C'est ce que ça veut dire, créer conscience. Ça veut dire de se développer. Ça veut dire le but du monde physique, c'est de se développer. C'est de créer une conscience, c'est le but du monde physique. Et c'est très important de commencer de comprendre que Dieu parle à nous. Et il y a une pédagogie dans la vie. Et ça veut dire, grâce à la principe du karma, il y a la loi du karma, la loi du destin. Ça veut dire tout ce que les énergies que j'ai envoyées va revenir à moi. C'est pas pour me punir, c'est pas parce que le Dieu veut se revancher, c'est pour me enseigner. Et Martinus parle des rémissions des péchés, on peut être pardonné. Parce qu'il y a un sens dans toutes les choses, c'est aussi une chose très fondamentale dans la cosmologie de Martinus, ça veut dire il y a un sens dans toutes les choses. Et pourquoi est-ce qu'on peut vivre une souffrance? C'est la cause de, c'est le karma. Mais il y a beaucoup des côtés de notre conscience qu'on va développer. Si par exemple on ne peut pas faire un meurtrier, on ne peut pas tuer un autre homme, on a une protection. On ne peut pas être tué soi-même. Et les clairvoyants ou si on a en vue cosmique, on peut voir cette dans l'aura. Notre protection est dans notre aura. Ça veut dire, si on ne peut pas tuer les autres, on a une protection. Si, par exemple, si j'ai tué 1000 hommes, il faut que je suis tué moi-même dans 1000 réincarnations, dans 1000 vies, il faut que, si c'est un œil pour un œil, un dent pour un dent. Mais peut-être est-ce que je suis tué 200 fois. Dans 200 vies, j'étais tué. Mais après ça, j'ai compris, il ne faut pas tuer. C'est une chose terrible de tuer autre. Et après ça, il y a un jour où on a tué la dernière fois. Après ça, on ne peut pas tuer plus. On ne peut pas tuer. Et après, on peut te demander, quel est le sens que je suis tué encore une fois? Il n'y a pas de sens. Si tu es tué encore une fois, la vie est un tartre absurde. C'est une absurdité. Je peux seulement vivre une souffrance pour apprendre quelque chose. Il y a d'autres, peut-être est-ce qu'on peut voler, peut-être est-ce qu'on peut mentir, et on peut avoir le même karma. Mais s'il y a un jour où on ne peut pas mentir ou voler, on a une protection. Et c'est bien de savoir, chaque fois qu'on a une souffrance, il y a un but. C'est parce qu'il faut que je apprends quelque chose. Ça veut dire que la souffrance n'est pas un ennemi. La souffrance est un ami. Parce que la souffrance montre à moi qu'est-ce que je dois apprendre. Et c'est très important de commencer d'apprendre la langue de la vie. Il y a une communication avec l'univers vivant dans deux manières différentes. Il y a une communication dans le monde extérieur, dans le monde physique. Dieu parle à moi dans le monde physique. S'il y a quelqu'un qui va me battre ou crier à moi, c'est parce que je le fais moi-même. Mais s'il y a un autre qui le fait envers moi, c'est Dieu qui me enseigne, c'est Dieu qui parle à moi. Et c'est, si on a un ami, on est très intime, on peut parler sur toutes les choses. Mais s'il y a un étranger, un homme inconnu, et on ne le connaît pas, comment est-ce qu'on peut faire connaissance? Comment est-ce qu'on peut devenir ami? Il faut parler. Quand on a beaucoup parlé avec cet homme, on est devenu des amis. Et Martinus parle beaucoup d'une relation personnelle à Dieu. Il parle d'une Dieu personnel. Et aussi comme le Christ. Et le Christ a aussi parlé avec le Dieu. Mais ce qui est très important, c'est d'améliorer cette relation avec Dieu. Et il y a deux côtés, comme j'ai dit. Il y a cette côté, il faut s'entraîner de voir Dieu dans tous les êtres vivants. Dieu est représentant, est dans les animaux. Dieu est dans les hommes. Il faut comprendre tout ce que je peux vivre dans le monde extérieur. C'est Dieu qui parle à moi. C'est un entraînement de s'accoutumer à ce fait que Dieu parle à moi dans le monde extérieur. Mais il y a aussi la prière classique où on peut, dans une télépathie, avoir contact avec Dieu. Dans la Bible, on parle, dans le paradis, il y a deux arbres. Il y a l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance. Et pour Martinus, l'arbre de la vie, c'est un symbole du monde spirituel où on peut jouir la vie. Mais le monde physique, c'est l'arbre de connaissance. Nous sommes dans le monde physique pour nous développer, pour l'évolution, pour créer de la conscience. Et les pensées de Dieu, c'est d'enseigner nous dans le monde physique. Il y a un petit livre de Martinus qui s'appelle « Le mystère de la prière ». Et il a écrit qu'il peut garantir le bonheur si on apprend deux choses. Il faut apprendre deux choses pour avoir la garantie d'être heureux. Premièrement, il faut comprendre les lois de la nature. Il faut comprendre la science spirituelle. Ça veut dire, il faut comprendre qu'on est un être éternel. Il y a la loi du karma, il y a la loi de la réincarnation. Il faut comprendre que tout est très bon, tout a un but, il y a un sens de la vie, et grâce à ces lois, je peux me développer, je peux me transformer dans un être de Dieu, dans un être de Christ. Le but de notre vie, le but de la vie des plantes, des animaux, c'est de devenir comme le Christ, c'est de devenir un être dans l'image de Dieu. C'est ce qui est l'idée ou le but. On peut comprendre les lois de la vie théoriquement. C'est un fait, c'est un fait vécu de Martinus, mais il dit qu'on peut comprendre les choses. Martinus a fait une science spirituelle où il peut argumenter dans des chaînes de pensée logiquement. Et on peut comprendre comment la vie fonctionne, mais ce n'est pas suffisamment. Il faut aussi améliorer la relation avec Dieu. Et on peut s'entraîner dans cette relation quand on se coutume à regarder Dieu dans le monde extérieur et aussi dans le monde intérieur, de parler avec Dieu. Au commencement, la prière, pour beaucoup des hommes, c'est de, comme chez Noël, on veut avoir des choses. Ce sont des vœux, on veut avoir une chose comme les petits-enfants. On veut éviter un problème, on veut avoir une maison ou un partenaire. Oui. Mais le but du prière, en fait, c'est plutôt de parler avec Dieu, de communiquer avec Dieu. Mais naturellement, on a la permission de prier, d'avoir beaucoup de l'argent, une belle maison, une belle partenaire. Mais ce qui est on peut faire comme le Christ. Martinus a expliqué que dans le jardin du Gethsémane, où Jésus-Christ a eu un grand problème, il a su qu'il doit être crucifié ou peut-être tué, il pourrait s'enfuir. C'est comment faire? Il a prié à Dieu, laisser le, qu'est-ce qu'on dit, passer. Il y a cette coupe avec le substance toxique.
Calice,
oui. Il a prié que la calice voudrait passer, lui passer. Ça veut dire, on peut prier que le problème passe. On peut avoir en prière, je voudrais bien éviter ce problème. Mais il a ajouté, mais pas moi, que ta volonté soit faite. Et quand il a dit ces mots, il y a un ange qui s'est montré pour lui, il l'a beaucoup aider. Et Martinus a dit, nous pouvons beaucoup apprendre de ce exemple. Ça veut dire, on peut prier d'éviter les problèmes à avoir, mais si ce n'est pas possible, j'espère, je veux que la volonté de Dieu soit faite. Si on a un travail, on n'aime pas le travail, on est très déprimé à cause de ce travail. Mais il faut prier, donnez à moi un autre travail. Peut-être est-ce qu'on peut avoir un autre travail? Et si on ne peut pas avoir, on dit, mais toi, volonté, sois faite. Peut-être c'est comme ça que c'est bien pour mon évolution d'avoir un chef autoritaire. Je le n'aime pas. Mais si on a une autre attitude, on comprend, c'est la volonté de Dieu, c'est mon karma, et c'est bien pour moi pour apprendre quelque chose. Comme ça, on peut prendre les choses dans une tout à fait autre manière. Mais il y a une grande magie dans la prière. Et quand on a cette attitude que la volonté de Dieu soit faite, on peut recevoir beaucoup de force. Le plus important chez la prière, c'est de prier, c'est de dire, donnez-moi de l'énergie, donnez-moi de force pour supporter les problèmes. Mais si on a une attitude comme ça, on peut graduellement regarder les problèmes comme des bagatelles. De temps en temps, on ne peut pas changer le karma, mais on peut apprendre de le prendre dans une autre manière et on peut s'entraîner de voir les problèmes comme des bagatelles. Ça veut dire, peut-être est-ce que c'est une souffrance et il faut que je vis avec cette souffrance. Mais avec cette attitude et cette on peut le supporter. Il y a aussi une chose qui est très importante, c'est de ce qu'on peut comprendre qu'il y a un sens dans la vie. Il y était un psychologue de Vienne, c'était Viktor Frankl. Il a écrit un petit livre sur l'existence et la psychologie. Il était prisonnier dans les champs de concentration des nazis. Mais il a survécu, mais il a fait ses observations dans les champs, et il a les champs qui a eu un sens dans la vie. Il s'est débrouillé. Mais si on a pensé que la vie est absurde, il n'y a pas de sens de la vie, il a eu un collapse, il était mort. Mais il y était un homme, le but de la vie pour lui, le sens de la vie pour lui, c'était de revenir à la Marie. Mais elle a écrit « Je veux un divorce parce que j'ai rencontré un autre homme ». Et ça a seulement duré une semaine et il est décédé. Il a perdu le sens de la vie. Je veux seulement mentionner cet exemple pour montrer que c'est tellement important de comprendre qu'il y a un sens, qu'on a un sens. Et ça veut dire, personnellement, c'est très important de savoir qu'il y a un sens dans la souffrance. La souffrance est un avantage sur moi. Parce que le bon Dieu va me transformer dans son image. Le but de la vie dans le monde physique, c'est que je deviens un être du Christ, un être comme Dieu. Et grâce à la souffrance, je peux développer mon humanité et mon amour du prochain. Ça veut dire, si on est en souffrance, on a cette communication avec Dieu, on a compris les lois de la vie, et on peut comprendre, c'est un avantage pour moi, les souffrances, les problèmes, on peut apprendre de les regarder comme des bagatelles. Et comme ça, Martinus a garanti, ici dans le deuxième chapitre, dans le mystère de la prière, si on peut comprendre les lois de la vie, on peut cultiver la prière à une telle perfection, qu'on peut vivre quoi que ce soit sans en être déprimé. Et un exemple, c'est Jésus-Christ. Il a possédé cette souveraineté mentale. On l'a torturé, on l'a tué. Pendant 9 heures, on lui a torturé. Mais il était toujours en harmonie. Il n'était pas déprimé. Il a eu cette souveraineté mentale. Et il a prié pour les gens qui l'ont tué. Et nous allons apprendre cette souveraineté mentale. Et on peut l'apprendre parce qu'on peut voir qu'il y a un sens là-dedans. Quand je regarde le télé et je vois la guerre en Irak, au Balkan, on peut être un peu déprimé. Et je me rappelle de la guerre du Balkan. Il y a des petits enfants qui ont joué dans la rue. Il y a des gens qui ont tué les enfants. On pense que c'est absurde. Pourquoi? On ne peut pas le comprendre. On peut voir tous les horreurs, terreurs de la guerre. Mais, quand je regarde ça, je dis, c'est intéressant. C'est comme ça que le bon Dieu crée l'homme à son image. Ça veut dire, il faut se rappeler, c'est pas une absurdité. C'est pas des choses injustes. Ce sont des choses nécessaires pour transformer l'animal à un être Christ. C'est le champ de choses absolument nécessaires. Et c'est ce que j'ai dit. Il y a toujours un sens. Si je dois vivre une souffrance, c'est parce que je dois apprendre quelque chose. Et quand j'ai appris cette chose, c'est une protection. Et c'est donc mon aura. Et si on ne peut pas faire, si on a un comportement très aimable, on a un aura dans une haute qualité qui peut faire cette protection. Ça veut dire, ce qui est très important pour avoir les pensées justes, les pensées positives, c'est d'être reconnaissant. C'est tellement important. Je crois que les adultes vont enseigner les enfants, si on donne quelque chose à un enfant, on dit souvent, mon petit ami, tu as oublié quelque chose. Tu as oublié de dire merci beaucoup. C'est ce que les adultes veulent que les enfants disent. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'adultes qui oublient de dire merci beaucoup soi-même. Si on a mangé un fruit, c'est bien de dire merci beaucoup à la nature, merci à Dieu. Est-ce que les animaux, est-ce que les hommes ont fait un travail pour créer une banane, un fruit? Non, pas du tout. C'est un cadeau de la nature. Et c'est raisonnable d'être reconnaissant. Si on, de temps en temps, quand je vois un aveugle dans la rue, Je t'en pense. Merci beaucoup parce que je peux voir. Merci beaucoup parce que je peux marcher, parce que je peux utiliser mes mains. Il y a beaucoup de choses. Si on pense, c'est je vis dans un pays où il n'y a pas de guerre, il y a de chauffage, il y a de lumière, il y a des hôpitaux et comme ça. C'est très bien de s'entraîner à penser à des choses positives. Et c'est le plus simple, c'est de s'entraîner, de dire merci pour les choses positives. Et c'est bien de dire merci beaucoup à la vie, à Dieu. Mais ce qui peut conduire à cette mentalité souveraine, c'est si on peut dire merci beaucoup pour les souffrances et les choses difficiles. Ce qui est très important, c'est de sentir la proximité de Dieu dans les problèmes, dans les souffrances. On n'est jamais seul. Si on a beaucoup, beaucoup de souffrances, ça veut dire qu'on est dans une évolution forcée. On est dans une évolution très rapide. Il y a des gens qui ont eu des maladies toute la vie. Ils ont eu presque seulement des souffrances. Et ils pensent, ma vie est perdue. Ça ne vaut rien. Mais au contraire, ils ont eu une vie très importante parce qu'il s'est développé rapidement. Et ça a eu une grande conséquence. Ils ne le savent pas. Mais ils ont développé un sentiment pour les autres, une compassion, un amour du prochain parce qu'ils ont souffert soi-même. Ça veut dire une vie dans les souffrances n'est pas du tout perdu. Au contraire, ça donnait cet don le plus précieux, c'est l'humanité et l'amour du prochain. Et comme ça, c'est bien de sentir dans les souffrances, dans les maladies, que Dieu va me modeler, transformer dans un être parfait. Et vous pouvez comprendre, si on peut être reconnaissant en relation avec les choses agréables et aussi en relation avec les choses désagréables, on est content. Martinus divise les expériences dans deux groupes. Il y a les choses agréables et les choses désagréables. Mais c'est bon qu'on peut avoir des choses désagréables. Grâce à ces expériences, on peut transformer l'animal à un être parfait. Il y a un exemple, si il y a une famille, il y a un enfant qui a une maladie et la mère priait chaque jour des heures et des heures à Dieu que l'enfant est guéri. Mais si c'était possible de guérir un enfant qui doit avoir cette maladie, cet enfant ne peut pas se développer et doit rester dans le règne animal. Ça veut dire Dieu sait ce qui est bien. Et ce n'est pas le sens de la prière d'avoir des avantages, mais le sens de la prière, c'est d'avoir une communication de Dieu, de faire ami avec Dieu. Et on peut sentir la proximité de Dieu dans toutes les circonstances. Si on est heureux, on a grand de succès, c'est bien de dire merci à Dieu. Mais c'est le plus grand de magie. C'est si on peut dire merci dans les problèmes, dans les souffrances. Et ce que Martinus montre, c'est qu'il y a deux espèces d'expériences. C'est le agréable bon et le désagréable bon. Mais toutes les choses sont bonnes. Et comme ça, on peut comprendre que tout dans la vie est très bon. Et on ne peut pas avoir des meilleures pensées comme ça. Tout est très bon. Ça veut dire, ça ne regarde pas ce qu'on peut vivre. Si, dans toutes les situations, on pense toujours, tout est très bon. On peut vivre, on peut comprendre, tout est très bon. Ce n'est pas tout le temps que c'est très agréable, mais quand même, c'est bon. Et on peut apprendre de regarder les problèmes comme des bagatelles. Comme ça, on a des pensées très positives qui donnent une vibration. Et si on est dans cette vibration, on est très reconnaissant pour les choses agréables, pour les choses désagréables. On peut voir tout est très bon. On est sur la même longueur d'onde comme Dieu. l'atmosphère du monde spirituel, c'est de l'amour. Et c'est aussi ce que Martinus dit, c'est ce qui ouvre pour les expériences spirituelles les plus hautes. C'est quand on peut avoir des expériences cosmiques, des expériences intuitives. Et il vient sans méditation, sans des exercices. Quand on est très évolué dans l'évolution, Martinus parle toujours, il doit être un équilibre entre le cerveau et le cœur, entre l'intelligence et le sentiment. Quand il y a une harmonie et balance, il veut entrer un nouveau énergie, c'est l'intuition. Et l'intuition, c'est la conscience de Dieu. C'est l'énergie le plus haut. Et quand on est très reconnaissant et très content avec la vie, on peut avoir une petite expérience cosmique. Et on peut sentir soi-même, on peut vivre soi-même que tout est très bon. Tout ce qu'on a cru, c'était quelque chose ténèbre, c'était le malheur, c'était quelque chose mal. On peut vivre que c'est seulement amour déguisé. Tout, c'est l'éducation de Dieu. Et Martinus peut, dans son science spirituelle, logiquement montrer que tout est très bon. Mais quand on est assez expérience cosmique, on peut soi-même vivre par l'intermédiaire de l'intuition que tout est très bon. Merci pour l'intuition.